VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du vendredi 23 octobre 2015. Au sommaire ce soir...
Encore des violences des salafistes armés du Nigeria, plusieurs villes du nord-est du pays et de l'extrême nord du Cameroun étaient aujourd'hui les cibles de Boko Haram.
L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans deux jours. Nous avons sur place notre envoyée spéciale, Tatiana Mosso. En République du Congo, nouvelle tentative de médiation avant le référendum constitutionnel de dimanche.
En Afrique du Sud, les étudiants contestataires obtiennent gain de cause. Jacob Zuma annule l'augmentation des frais de scolarité dans les universités.
Crise en Syrie, les États-Unis, la Russie et d'autres puissances annoncent un nouvel effort diplomatique.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Des attaques djihadistes ont secoué plusieurs villes du nord-est du Nigeria aujourd'hui. Un attentat s'est produit dans une mosquée de Yola, la capitale de l'État d'Adamawa, au moment de la prière. Pour l'heure, aucun bilan définitif n'est disponible. Les secours font en tout cas état de dizaines de victimes. Cette explosion fait suite à un autre attentat dans une mosquée ce vendredi. Un kamikaze a tué 28 personnes à Maïdougouri, fief historique des islamistes de Boko Haram, dans l'état de Borno. Nous y reviendrons un peu plus tard avec Salwa Jafari.
Et Boko Haram a tenté de s'emparer d'une ville au Cameroun. L'organisation djihadiste a mené une incursion à Kirawa ce matin, dans la région de l'extrême nord. Et des civils auraient été tués et des renforts militaires camerounais seraient arrivés sur place. Mais il n'était pas possible de savoir dans l'immédiat si des combats étaient engagés dans cette ville de quelques 500 000 habitants. Nous y reviendrons en seconde partie d'émission. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans deux jours. La campagne électorale prend donc fin ce soir. Les rues d'Abidjan étaient particulièrement animées ce vendredi, notamment en raison du meeting du président sortant Alassane Ouattara. Et c'est dans ce contexte que Charles Konombani, le candidat indépendant du CNC, retire sa candidature. Il faut dire que depuis le début de la campagne, l'ancien Premier ministre ne cesse de dénoncer des irrégularités dans l'organisation de l'élection. On aura un point complet dans notre magazine avec notre correspondante sur place, Tatiana Mosso. République démocratique du Congo, après la démission de l'abbé Apollinaire Malumalu, dont de la présidence de la Commission électorale nationale indépendante, les confessions religieuses ont proposé Corneille Nanga, actuel secrétaire exécutif national adjoint de la CENI, pour lui succéder. Ce dernier a été proposé par 7 des 8 confessions religieuses, car l'Église catholique n'a pas voulu cautionner ce vote. Selon elle, il n'y a pas eu de débat ni de vote autour de cette candidature, comme donc l'a expliqué à notre station partenaire l'abbé Léonard Santedi, secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, qui a pris part aux discussions.
En Mauritanie, 5 personnes arrêtées le 13 octobre à Nouakchott lors d'une manifestation contre la gestion de la fièvre de la vallée du Rift ont été mises en liberté provisoire. C'est ce qu'a indiqué leur avocat à l'agence France-Presse. Il a dénoncé l'acharnement des autorités contre des jeunes exerçant leur droit à manifester pacifiquement et des jeunes qui n'ont commis, selon lui, aucun crime. La date d'un éventuel procès n'a pas été indiquée.
En Guinée-Bissau, l'ancien chef de l'armée, José Zamora Induta, est poursuivi pour renversement de l'ordre constitutionnel, connexion avec une organisation terroriste et assassinat. Il était exilé au Portugal depuis le coup d'État militaire de 2012.
La Guinée-Bissau, qui est par ailleurs en proie à l'insécurité, de nombreuses attaques à main armée ont été enregistrées dans la capitale, Bissau. Conséquence, les forces de sécurité patrouillent la nuit dans les différents quartiers périphériques de la capitale, selon notre correspondant Noah Mankali.
En Afrique du Sud, le mouvement de protestation des étudiants commence à porter ses fruits. Cet après-midi, le président sud-africain Jacob Zuma a annoncé qu'il annulait l'augmentation des frais de scolarité des universités pour l'année 2016. Cette décision fait suite aux heurts entre certains étudiants et la police de Pretoria.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Dans le reste du monde, le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé un sommet sur la Syrie la semaine prochaine. C'est la principale résolution après une rencontre à Vienne en Autriche entre le chef de la diplomatie américaine et son homologue russe Sergueï Lavrov. Il faut dire que la Russie est favorable au lancement de pourparlers sur un règlement politique du conflit syrien, incluant le gouvernement de Bachar al-Assad et le spectre complet de l'opposition syrienne. Écoutons Jean-Roger Bion.
La rencontre de la semaine à venir vise à intensifier les efforts pour parvenir à un règlement politique du long et sanglant conflit en Syrie, où les États-Unis et la Russie ont des positions antagoniques. Kerry et Lavrov auront essayé d'emblée de trouver un terrain d'entente entre Washington et Moscou aujourd'hui dans leur discussion sur l'avenir politique de la Syrie. Les deux hommes se sont serrés la main, sans plus, devant les caméras, avant que le secrétaire d'État américain ne vienne annoncer la réunion de la semaine prochaine aux correspondants de presse voyageant avec lui. De l'autre côté, le ministre jordanien des Affaires étrangères Nasser Judeh et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov ont fait savoir que la Russie et la Jordanie ont convenu de coordonner leurs actions militaires en Syrie, y compris dans les campagnes aériennes. John Kerry, quant à lui, poursuit ses consultations, notamment avec des responsables jordaniens et avec le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas. La rencontre Kerry-Lavrov à Vienne a impliqué également des représentants de la Turquie et de l'Arabie saoudite.
Des milliers de Palestiniens ont afflué ce vendredi sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, ouverte par Israël sans restriction pour la première fois depuis des semaines dans un geste d'apaisement. Mais des heurts violents ont fait plus de 80 blessés en Cisjordanie et à Gaza. À Gaza, des jeunes lanceurs de pierres palestiniens ont affronté les soldats israéliens près de la barrière de sécurité qui enferme ce territoire. Ces derniers ont riposté par les tirs qui ont fait 65 blessés, dont 3 journalistes et 4 secouristes, selon des sources médicales palestiniennes. En Cisjordanie occupée, des heurts violents ont également opposé de jeunes Palestiniens à l'armée israélienne, notamment près de Hébron. 20 Palestiniens ont été blessés par des tirs israéliens, selon les secours palestiniens.
Le président américain Barack Obama a nommé ce vendredi Brett McGurk, un expert de l'Irak, nouvel émissaire pour coordonner la campagne contre le groupe État islamique. Selon le communiqué de la Maison-Blanche, M. McGurk a longtemps été l'un des meilleurs conseillers du président sur l'Irak. Brett McGurk succède au général John Allen, qui quitte son poste après une année marquée par une série de revers significatifs. Hier, un Américain est mort au combat lors de l'assaut d'une prison de Daesh, d'où ont été libérés 70 otages. C'est le premier Américain mort au combat en Irak depuis 2011.
Nous vous le disions en début d'émission, des attaques djihadistes ont secoué plusieurs villes du nord-est du Nigeria. Aujourd'hui, on écoute Salwa Jafari.
L'attaque a été menée peu après 4h GMT lors de la première prière du matin par un assaillant solitaire, mais les témoins ont fait état de 2 explosions. Au moins 20 personnes ont été blessées. 2 hommes auraient été arrêtés et remis à la police après avoir célébré l'attentat. Ils se tenaient à l'écart et se congratulaient en lançant « Allahu Akbar, Dieu est grand », selon 2 témoins. Cette attaque est la 6e depuis début octobre qui frappe Maïdougouri, où Boko Haram a vu le jour en 2002 avant de déclencher une insurrection en 2009. Au moins 76 personnes ont été tuées dans des attentats dans cette ville, capitale de l'État de Borno, dans l'extrême nord-est du Nigeria, frontalier du Niger, du Tchad et du Cameroun, où Boko Haram frappe également régulièrement. Malgré la récurrence de ces attentats, l'armée nigérienne a revendiqué une série de succès contre Boko Haram. Il dit avoir repris de vastes territoires saisis par les militants l'année dernière.
À rappeler que Boko Haram a lancé cette attaque à Maïdougouri, donc 28 personnes ont été tuées. Merci Salwa Jafari.
Et on revient sur l'actualité sud-africaine avec le mouvement de protestation des étudiants qui commence à porter ses fruits puisque cet après-midi, le président Jacob Zuma a annoncé qu'il annulait l'augmentation des frais de scolarité et des universités pour l'année 2016. On écoute Dili Diko.
Dans une allocution télévisée, le président Jacob Zuma a annoncé qu'il n'y aurait aucune augmentation de frais de scolarité en 2016. La mesure fait suite à des pourparlers entre le gouvernement et les leaders de la contestation. Il a aussi indiqué que les discussions se poursuivront sur des problèmes plus larges que les frais de scolarité. De nombreux problèmes ont été soulevés et devront être suivis, comme l'éducation gratuite, l'indépendance des universités et le racisme. Cette annonce va permettre de débloquer la situation dans les universités sud-africaines paralysées depuis le début du mouvement. Dans la matinée, avant l'annulation de l'augmentation des frais de scolarité, la manifestation des étudiants s'est déroulée au départ sans incident. Mais le rassemblement a dégénéré lorsque quelques étudiants, parmi les milliers sur place, ont jeté des pierres sur les policiers et mis le feu à des toilettes mobiles sur la pelouse de Union Buildings.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Quelques 400 entreprises ont été enregistrées pour participer à la 4e édition du Forum Africalia du 24 au 26 février à Ouagadougou, selon l'APA, citant la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Africalia est organisée en collaboration avec l'UMOA, la France et le Québec et bénéficie du soutien de l'OIF, l'ONUDI et la Banque mondiale. Ce forum est une opportunité pour les petites et moyennes entreprises africaines de tisser des relations d'affaires avec d'autres entreprises dans le monde. Côte d'Ivoire, le directeur général chargé des projets statistiques au ministère de l'Agriculture a annoncé la mise en place en 2016 d'une assurance agricole pour sécuriser les revenus des producteurs. Noun Koulibaly a annoncé d'autres innovations, dont la création d'une bourse des matières premières qui sera un grand marché où tous les prix, excepté ceux du café et du cacao, seront affichés dès le départ. Un projet de loi agricole est en cours pour contrer les intermédiaires malveillants dans le secteur en Côte d'Ivoire. La suppression des frais de roaming depuis un an entre le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda a fait ses preuves. Le réseau unique montre tout le pouvoir accélérateur des technologies de l'information et de la communication dans l'intégration sous-régionale de l'Afrique de l'Est, estime le site en ligne spécialisé Financial Afrique. Depuis juin 2014, le nombre d'abonnés a augmenté de 300% et les recettes de 50%. Quant aux tarifs, ils ont baissé de 50% alors que les appels se sont accrus de 800%.
Nous passons tout de suite à la page sport avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Le Maroc se qualifie pour le CHAN 2016 au Rwanda.
Oui, le Maroc a remporté une nette victoire sur la Libye 4-0 jeudi en éliminatoire du CHAN 2016, décrochant du coup son ticket pour le Rwanda et qualifie en même temps la Tunisie. La rencontre entre donc la Tunisie et le Maroc se jouera pour l'honneur.
Et parlant toujours du CHAN 2016, le match entre le Congo et le Cameroun reporté au 31.
Oui, la rencontre devait avoir lieu ce dimanche, mais en raison de la tension sociopolitique au Congo, ce match a été repoussé. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul 0-0 à Yaoundé au Cameroun.
Alors quand je dis 31, je veux parler bien sûr du 31 octobre, pas le 31 décembre. Un résultat au Mondial de moins de 17 ans, Bagassi.
Oui, l'Afrique du Sud a trébuché en concédant un match nul, un but partout hier au Mondial de moins de 17 ans, face à la Corée du Sud, pourtant réduite à 10.
Et nouveau candidat pour succéder au président de la FIFA.
Oui, il s'agit du Français Jérôme Champagne, ancien secrétaire général adjoint de la FIFA. Champagne, âgé de 57 ans, est le quatrième candidat déclaré, disposant des 5 parrainages nécessaires après le Français Michel Platini, dont la candidature est gelée pendant sa suspension de 90 jours. Le prince jordanien Ali et l'ancien capitaine de Trinité et Tobago, David Nakid. Les candidatures chérubins seront closes lundi et vous avez intérêt à vous dépêcher. L'élection à la succession du Suisse Joseph Blatter aura lieu le 26 février 2016. Bonne chance à vous, chérubin.
Le légendaire Johan Cruyff atteint de cancer.
Oui, l'icône du football néerlandais qui avait mené une célèbre campagne publicitaire anti-tabac dans les années 90 souffre d'un cancer de poumon. C'est ce qu'a révélé hier son entourage, souvent surnommé le Hollandais volant. L'ancien joueur de 68 ans est l'incarnation du football total.
Merci, Begasikoura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil, en votre compagnie, place au dossier du jour. Et donc, la première escale, Gabi, c'est le Cameroun.
Oui, l'extrême nord du pays où Boko Haram a tenté de s'emparer de la ville de Kerawa ce matin. Des civils auraient été tués. Des renforts militaires camerounais seraient arrivés sur place, mais il n'était pas possible de savoir ce soir si des combats étaient engagés dans cette ville de quelques 50 000 habitants. John Linden a joint Gibaï Gatama, il est directeur de publication du journal L'Œil du Sahel.
À Kerawa, ce matin, il y a eu une incursion de combattants de Boko Haram qui sont entrés dans la ville quelques temps et après qui ont été repoussés par l'armée camerounaise. Mais ce n'est pas la première incursion de 48 heures. Donc il y a une forte pression sur cette ligne de front. Et ces dernières 48 heures, on peut avoir enregistré au moins pas moins de 5 incursions de la secte Boko Haram dans cette politique.
Alors, il n'y a pas longtemps de cela, et parlant de l'arrivée des soldats américains au Cameroun, vous avez titré à la une de votre journal « Gare au triomphalisme ». Est-ce que ce qui arrive aujourd'hui vous surprend ou pas?
Non, ce qui arrive aujourd'hui ne me surprend pas parce qu'il y a une forte pression de l'armée nigériane dans le Borno State et que Boko Haram ne combat pas pour faire laisser l'armée nigériane réoccuper les villes. La secte se déploie dans les villages limitrophes avec le Cameroun et multiplie les incursions. Alors nous avons titré Gare au triomphalisme parce que bon, vous savez, il y a le mythe de l'invincibilité de l'armée américaine. Donc pour les populations, elles pensent que si l'armée américaine se déploie, l'affaire sera réglée dans quelques jours. Et cela peut avoir un impact sur la mobilisation des populations comme vecteur accompagnateur, si vous voulez, de l'armée sur le terrain, en pensant que ce sont elles qui fournissent les informations. Moi, j'ai entendu des gens dire, alors, à quoi ça sert de fournir encore des enseignements à l'armée si les drones américains vont pouvoir écouter tout le monde, vont pouvoir faire ce travail, donc peut-être se concentrer à autre chose. Alors que dans ce type de guerre asymétrique, le renseignement humain contribue à 80% au résultat.
Voilà, c'était Gibaï Gatama, directeur de publication de L'Œil du Sahel. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans 2 jours. La campagne électorale prend donc fin ce soir et les rues d'Abidjan étaient particulièrement animées ce vendredi, notamment en raison du meeting du président sortant Alassane Ouattara. C'est dans ce contexte que Charles Konombani, le candidat indépendant du CNC, retire sa candidature. Sur place, notre envoyé spécial, Tatiana Mosso.
Effectivement, le candidat indépendant de l'Alliance du CNC a retiré sa candidature. Il l'a annoncé officiellement au cours d'une conférence de presse tout à l'heure avec quelques confrères. Il faut savoir que c'est plus ou moins une surprise. La nouvelle s'est répandue assez vite dans Abidjan. Et les premières réactions, c'est de dire finalement, ce n'est pas surprenant puisque dès le début de la campagne électorale, Charles Konambani, l'ancien Premier ministre, avait déjà dénoncé plusieurs irrégularités. Et il disait déjà que cette campagne électorale était biaisée et que le vote allait forcément l'être effectivement. Et finalement, il renonce aujourd'hui à être candidat. Donc, il passe de 8 à 1 candidat. Charles Konambani, qui depuis le début ne cesse de dénoncer une victoire dès le premier tour du candidat Alassane Ouattara.
La campagne est donc sur le point de prendre fin. Un seul gros meeting aujourd'hui à Abidjan, celui d'Alassane Ouattara.
Effectivement, la campagne ici à Abidjan a été plutôt calme dans le sens positif, mais aussi calme dans le sens où il n'y avait pas de grands meetings auxquels les partisans pouvaient participer. Ça change beaucoup de 2010. Toutefois, cet après-midi, c'est Alassane Ouattara, une fois de plus, et ses partisans qui vont investir les rues de la capitale avec du blanc et du orange, les couleurs du candidat Alassane Ouattara du RHDP, de l'alliance du RHDP, devraient être dans le plateau à la place de la République d'ici peu. Plusieurs, depuis le début d'après-midi, plusieurs personnes, plusieurs partisans à la fois en moto, en voiture, en bus se déplacent et affluent vers le centre-ville d'Abidjan et le meeting devrait durer à peu près 2 heures.
Alors vous venez de dire une campagne calme et cela se reflète sur le taux de participation qui inquiète.
C'est la grande question de ce scrutin présidentiel. Est-ce que les Ivoiriens iront voter massivement? Écoutez, ce que les chiffres disent pour l'instant, c'est que peu d'électeurs, finalement sur les plus de 6 millions d'électeurs, ont été retirés leur carte pour pouvoir voter dimanche. Alors effectivement, il a été autorisé de pouvoir voter avec sa carte d'identité, mais est-ce que cela va pour autant motiver ceux qui avaient déjà décidé soit de s'abstenir, soit de carrément boycotter le scrutin? C'est justement la grande réponse qu'on devrait avoir dès dimanche soir, le taux de participation. On se souvient que lors du premier tour en 2010, il avait atteint les 80%, un taux record. Alors, même le parti au pouvoir aujourd'hui s'inquiète de savoir est-ce que les Ivoiriens se mobiliseront réellement. Ce sera la grande réponse à attendre des urnes dimanche et des résultats définitifs qui sont attendus vraisemblablement mardi.
Voilà, c'était notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Tatiana Mosso.
Au Congo, au Brésil. Au Congo-Brazzaville, l'opposition est restée en retrait ce vendredi, tandis que l'archevêque de Brazzaville, après les récentes violences, appelait à sauver la cohésion nationale à 2 jours du référendum qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat. « Nous pouvons encore sauver ce qui nous reste, la cohésion nationale », écrit Mgr Anatole Milandou dans un appel à la classe.
Depuis hier jeudi, l'archevêque de Brazzaville, Mgr Anatole Milandou, a été contacté d'après l'Église catholique par le président de la République directement pour qu'il prenne langue avec les membres de l'opposition et qu'il commence rapidement des discussions sur la crise actuelle dans le pays. Malheureusement, des incidents, en fait, deux opposants ont été empêchés de quitter leur maison et donc les discussions n'ont pas eu lieu, mais l'Église a confirmé, l'un des porte-parole de Mgr Anatole Milandou nous a confirmé ce matin que les discussions avaient commencé, mais les partisans donc du pouvoir et de l'opposition ne sont pas encore ensemble pour discuter. La méthodologie choisie par l'Église catholique, c'est que les membres de l'opposition sont dans un coin et ceux du pouvoir également dans un autre coin, et ils mènent des discussions de façon séparée. Et ce n'est qu'après qu'une mise en commun sera faite. Et d'après donc cette source proche de l'Église catholique, cette mise en commun ne devait pas survenir avant lundi. Mais déjà, l'archevêque de Brazzaville a publié un appel à l'endroit de toute la classe politique congolaise, appelant les acteurs à aller dialoguer. Et selon ses propres termes, il dit que ne pas dialoguer maintenant là serait cynique, serait même diabolique. Il est question aujourd'hui de trouver des solutions, une issue définitive à cette crise, dit donc Mgr Anatole Milandou, l'archevêque de Brazzaville.
Mais alors, la question que l'on peut vous poser, puisque vous parlez d'une rencontre plutôt entre les deux parties, une rencontre directe lundi, est-ce à dire que le référendum aura donc lieu comme prévu dimanche?
Moi, personnellement, je ne peux pas le confirmer, mais je sais que le gouvernement a prévu donc ce référendum pour le 25. En ce moment, le matériel électoral est en train d'être déployé, notamment dans les zones qui n'ont pas été touchées par les contestations. Beaucoup de populations donc ont reçu les cartes d'électeurs. Mais dans les zones où il y a eu des troubles, le matériel électoral a été, une bonne partie du matériel électoral a été détruit. Et puis l'autorité administrative a été chassée également de certaines sous-préfectures dans certains départements. Ce qui fait que en 48 heures, il est vraiment difficile de dire que le scrutin sera vraiment organisé à 100% sur l'ensemble du territoire national.
Les Tanzaniens iront aux urnes ce dimanche 25 octobre pour ce triple scrutin municipal, législatif et présidentiel. L'attention sera surtout portée vers celui qui, au terme du processus, prendra la direction du pays. John Lyndon, au moins une chose est certaine, Jakaya Kikwete n'est plus en lice.
En effet, l'ancien président est hors course. La Constitution lui interdit de se représenter après deux mandats. Et pour ceux qui ont suivi de près la campagne électorale en Tanzanie, cette élection devrait donc en réalité se jouer entre deux candidats sur les 8 en lice. Un duel, dit-on, à Arusha.
Alors John, qui sont ces deux principaux prétendants à la succession?
Eh bien, il y a d'abord d'un côté John Magufuli, ancien ministre des Travaux publics et candidat du Chamacha Mapinduzi, le parti au pouvoir. Si à 55 ans, John Magufuli compte succéder à Jakaya Kikwete, dont il a été l'un des collaborateurs, dans le discours, il prône plutôt le changement.
Et à quel niveau?
Magufuli propose un changement qui doit commencer par l'éradication de ce fléau dévastateur qu'est la corruption. Les voleurs des deniers publics, souligne-t-il, ne sont pas que dans les autres partis. Ils sont aussi, dit-il, au Chamacha Mapinduzi. Et si John Magufuli a choisi de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, c'est qu'en fait, non seulement il veut gagner la confiance des électeurs, mais aussi et surtout, il veut redorer l'image de la Tanzanie, dont on sait qu'elle a été émaillée ces derniers temps par de nombreux scandales financiers.
Et quel est l'autre personnage dans la course? Parce que vous avez parlé d'un duel à Arusha.
Oui, autre candidat, autre bête politique, c'est Edouard Lowassa, premier ministre de 2005 à 2008, et dont on se souvient qu'il avait dû démissionner de ses fonctions à la suite d'un scandale, tenez-vous bien.
Laissez-moi deviner, de corruption.
Un scandale de corruption, évidemment. Ancien membre du Chamacha Mapinduzi, le parti au pouvoir, Edouard Lowassa a dû jeter l'éponge en juillet dernier pour n'avoir pas été choisi comme le candidat du parti au pouvoir à cette élection présidentielle. Et pour prendre sa revanche, Edouard a pu obtenir le soutien de certains partis de l'opposition. Il a 61 ans. Et en Tanzanie, beaucoup pensent qu'il est fatigué et malade, mais le concerné s'est dit gonflé à bloc et est déterminé à se battre pour sortir son pays de la pauvreté.
Qui l'emportera? Les spéculations vont bon train, mais la seule réponse valable, évidemment, c'est celle des urnes.
Oui, c'est au peuple tanzanien qu'il reviendra le droit de choisir qui, après dimanche, sera le prochain leader de la Tanzanie. Il n'est que d'attendre.
Merci John Lyndon.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi, nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine. Vos points de vue dans RM Show, envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-31-40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
c'est la fin de cette édition qui a été mise en ordre par Lionel Gaïma avec l'assistance technique de Robert Wagner. À la présentation, Morgan Guériac et Chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.